Le hardi dragon ou aventure de mon grand-père. Mon grand-père était un hardi dragon, car c'est un métier, voyez-vous, qui a couru dans la famille. Tous mes pères ont été dragons et sont morts au champ d'honneur, excepté moi, dont j'espère, sans vanité, que mes enfants pourront en dire autant. Je disais donc que mon grand-père était un hardi dragon qui servait dans les Pays-Bas. Au fait, il était de cette armée qui, selon mon oncle Toby, jurait si terriblement en Flandre, et lui-même jurait tout comme un autre. De plus, ce fut lui-même qui introduisit la doctrine de la chaleur radicale et de l'humilité radicale, citée par le caporal Trim, ou, en d'autres termes, la recette de faire passer l'humilité avec un verre d'eau-de-vie. Au reste, peu importe à mon histoire. Je veux seulement vous montrer que mon grand-père n'était pas homme à se laisser aisément intimider. Il avait vu le feu, ou, comme il le disait lui-même, il avait vu le diable, et c'est tout dire. Eh bien, messieurs, mon grand-père, retournant en Angleterre, allait s'embarquer à Ostende. La peste de cette ville, car les vents contraires m'y retinrent 3 jours entiers, et du diable si je trouvais un joli compagnon ou une jolie mine pour me désennuyer. Je disais donc que mon grand-père allait en Angleterre, ou plutôt à Ostende. Peu importe, c'est tout. Un soir, à la brune, il trottait lestement vers Bruges. Sans doute, messieurs, chacun de vous connaît Bruges, une vieille ville flamande, autrefois, dit-on, grande place de commerce et de banque, quand les menhirs c'était dans leur gloire, mais maintenant à peu près aussi grande et aussi vide que la poche d'un Irlandais. Eh bien, messieurs, c'était l'époque d'une foire annuelle. Toute la ville était encombrée, les canaux couverts de barques flamandes, les rues remplies de marchands flamands. À peine restait-il un passage à travers les ballots, les denrées, les marchandises, les paysans avec leurs larges chausses et les femmes avec leurs demi-douzaines de jupes. Mon grand-père allait devant lui sans prendre garde, car c'était un gaillard de bonne humeur, regardant cette foule de toutes couleurs et ces vieilles maisons avec leurs toits sur la rue et les nids de cigognes sur les cheminées, saluant les Young Flans qui montraient leur nez aux fenêtres et plaisantant avec les femmes à droite et à gauche dans la rue. Tout riait et prenait tout de bonne humeur, car, quoiqu'il ne sût pas un mot de leur langue, il avait toujours l'art de se faire comprendre des femmes. Or donc, messieurs, c'était l'époque de la foire annuelle. La ville était encombrée, chaque auberge et chaque taverne remplie, et mon grand-père allait en vain de porte en porte pour se loger. Enfin, il aperçut une vieille auberge qui paraissait près de s'écrouler, et que tous les rats auraient quittée s'ils avaient trouvé ailleurs un gîte. C'était une de ces maisons comme on en voit dans les tableaux flamands, avec un grand toit qui touchait presque le ciel, et 7 greniers l'un sur l'autre comme les 7 cieux de Mahomet. Rien ne soutenait cette bicoque qu'un nid de cigogne sur la cheminée, ce qui toujours, dans les Pays-Bas, porte bonheur à une maison. Et au moment même de l'arrivée de mon grand-père, 2 de ces oiseaux de grâce étaient perchés sur leurs longues jambes comme des fantômes au haut de la cheminée. Ma foi, ils ont gardé la maison sur pied jusqu'à ce jour. Car vous pourrez la voir encore en passant à Bruges. Seulement, elle est changée en une brasserie flamande. Du moins, était-ce ainsi quand je passais par là après la bataille de Waterloo. Mon grand-père, en approchant, regardait la maison avec curiosité. Elle aurait peu frappé son imagination s'il n'avait lu en grosses lettres sur la porte « Hier verkoopt man Guldendronk ». Mon grand-père savait assez la langue pour comprendre que l'enseigne promettait de bonnes liqueurs. « C'est la maison qu'il me faut, » dit-il. S'arrêtant court devant la porte. L'arrivée soudaine d'un hardi dragon était un événement dans une vieille auberge fréquentée seulement par les paisibles enfants du commerce. Un riche bourgeois d'Anvers, gros homme en large chapeau flamand, qui était le grand homme et le puissant patron de l'établissement, debout d'un côté de la porte, avait à la bouche une longue pipe brillante. De l'autre, un petit homme gras, distillateur de genièvre à Schiedam, était assis et fumait aussi. L'hôte au large nez était sur le seuil. L'hôtesse, affable en bonnet plissé, était près de lui, et la fille de l'hôtesse, grosse flamande avec de longs pendants d'oreilles en or, regardait à une fenêtre. « Oh !» dit le riche bourgeois d'Anvers, jetant un regard maussade sur l'étranger. « Dick Duivel !» dit le petit distillateur de Chidane. L'aubergiste découvrit, avec la sagacité d'un publicain, que le nouveau venu n'était nullement du goût des 2 autres. Et, à dire vrai, l'œil éveillé de mon grand-père ne lui plaisait pas trop. Il secoua la tête. Pas un grenier dans la maison qui ne fût occupé. Pas un grenier, répéta sa femme. Pas un grenier, répéta sa fille. Le bourgeois d'Anvers et le petit distillateur de Schiedam restèrent à fumer leur pipe. le regardant de travers par-dessous leur large chapeau, mais sans dire mot. Mon grand-père n'était pas homme à craindre un regard. Il laissa tomber les rênes sur le col de son cheval, pencha sa tête de côté, mit un bras sur sa hanche. « Eh, Ouida, dit-il, eh bien, je passerai la nuit ici. » À ces mots, il frappa sur sa cuisse par forme d'emphase. Le coup alla au cœur de la maîtresse du logis. Il se mit en devoir d'accomplir son vœu, en descendant de cheval et en entrant dans la chambre au milieu des minières étonnées. « Peut-être vous êtes-vous trouvé dans la chambre commune d'une vieille auberge flamande. Ma foi, la chambre était aussi bien qu'on pouvait le désirer. » Carrelée en briques, ornée d'une grande cheminée, avec toute l'écriture sainte peinte sur faïence, et dont le manteau, jaillissant presque hors du mur, était couvert d'un régiment de pots cassés et de vases de terre alignés. Sans parler d'une demi-douzaine de grands plats de Delft suspendus au mur en guise de tableau. Et dans un coin, le comptoir où était assise une grosse servante avec un mouchoir de calicot rouge et les pendants d'oreilles jaunes. Mon grand-père fit claquer ses doigts sur sa tête en jetant un coup d'œil autour de la chambre. « Ma foi, c'est la maison que j'ai cherchée, » dit-il. La garnison fit encore un instant mine de résister, mais mon grand-père était un vieux soldat, et, qui plus est, un Irlandais qui ne se laissait pas repousser, surtout une fois entré dans la forteresse. Ainsi, il querella l'aubergiste, embrassa sa femme, prit la main à sa fille, caressa sous le menton la fille de comptoir, et tout le monde convint que ce serait pitié et honte de laisser un si hardi dragon couché dans la rue. Ainsi, ils se liguèrent, c'est-à-dire mon grand-père et la maîtresse, et enfin, on consentit à lui donner une vieille chambre depuis quelque temps abandonnée. « On dit qu'elle est ensorcelée, » dit tout bas la fille de l'hôte, « mais vous êtes un hardi dragon, et sans doute vous n'avez pas peur des spectres. »« Non, de par le diable, » dit mon grand-père en passant sa grosse joue, « mais si les fantômes me poursuivent, j'ai été à la mer Rouge dans mon temps, » et j'ai un beau moyen de les chasser, mon cœur. » Alors, il dit tout bas à la jeune fille quelque chose qui la fit rire, et lui donna gaiement une chiquenaude sur l'oreille. Bref, personne ne savait mieux que mon grand-père se faire bien voir des cotillons. En peu de temps, il prit, selon sa coutume, possession complète de la maison, et alla partout tranchant du maître. À l'écurie pour veiller à son cheval, à la cuisine pour veiller à son souper, il avait quelque chose à faire ou à dire avec tout le monde. Il fumait avec les Flamands, buvait avec les Allemands, frappait sur l'épaule de l'aubergiste, dansait avec sa fille et sa servante. Jamais, depuis les jours d'Ali Clocker, n'avait paru un tel tapageur. L'aubergiste le regardait avec de grands yeux. Sa fille levait la tête et riait chaque fois qu'il s'approchait d'elle. Et quand il traversait le corridor avec son sabre traînant à son côté, les servantes le regardaient et chuchotaient l'une à l'autre. « Quel bel homme !» À souper, mon grand-père prit le commandement de la table d'hôte comme s'il eût été chez lui. Il servait tout le monde sans s'oublier, parlait à chaque convive, qu'il comprît ou non son langage, et gagna l'amitié du riche bourgeois d'Anvers qui, de sa vie, n'en avait montré à personne. En un mot, il bouleversa la maison de haut en bas et mit tout en mouvement. Il resta seul à table avec le petit distillateur de Chidam qui s'imbiba longtemps avant d'éclater. Mais une fois lancé, il fut vraiment un diable incarné. Il se prit d'une violente affection pour mon grand-père. Ainsi, ils restèrent à boire, à fumer, à dire des histoires, à chanter des chansons flamandes et irlandaises, sans comprendre un mot l'un de l'autre, jusqu'à ce que le petit Hollandais, noyé dans son genièvre, fût porté au lit, toussant, haletant et répétant le refrain d'une chanson d'amour en bas flamand. Or donc, messieurs, on conduisit mon grand-père à sa chambre, par un large escalier formé de poutres mal taillées, et par une suite de longs passages, ornés de tableaux enfumés de poissons, de fruits, de chasses, de fêtes de campagne, de larges cuisines et de majestueux bourgmestres, comme on en voit dans les anciennes auberges flamandes. Jusqu'à ce qu'enfin, il arriva à sa chambre. C'était un vieil appartement encombré de rogatons de tout genre. Il avait l'air d'un hôpital de meubles brisés ou surannés, où toutes choses estropiées et hors de service étaient déposées pour y être réparées ou oubliées. On aurait même pu le prendre pour un congrès général de vieux meubles où chaque siècle, chaque pays avait un représentant. On n'y trouvait pas deux chaises pareilles. On en voyait à grand dossier, à petit dossier, à fond de cuir, à fond de laine, à fond de paille ou d'autres sans fond, et des tables de marbre brisées avec des pièces isolées, tenant des boules dans leurs griffes comme prêts à jouer aux quilles. Mon grand-père fit en entrant un profond salut à ce bizarre assemblage, se déshabilla, mit sa lumière dans la cheminée, demandant pardon aux pincettes qui semblaient faire l'amour à la pelle au coin du feu, et lui dire des douceurs à l'oreille. Le reste des autres étaient à ce moment profondément endormis, car vos menhirs sont d'intrépides dormeurs. Les servantes se traînaient l'une après l'autre, en bâillant à leur boudoir, et, dans toute l'auberge, pas une tête femelle ne reposa cette nuit sur un oreiller, sans rêver au hardi dragon. Mon grand-père, à son tour, se coucha, et se couvrit l'un de ces grands sacs de duvet sous lesquels on étouffe un homme dans les Pays-Bas. Il resta là, fondant entre deux lits de plumes, comme un anchois à la sandwich entre deux rôtis en beurre. C'était un homme de complexion sanguine, et ce paquet étouffant le mit bientôt au supplice. Il semblait qu'une légion de lutins fût à le tourmenter, et le feu de la fièvre faisait bouillir le sang dans ses veines. Il resta néanmoins jusqu'à ce que tout bruit eût cessé dans la maison. Or le ronflement des menhirs qui, de leurs différentes chambres, se répondaient sur tous les tons et sur toutes les notes, comme autant de grenouilles dans un étang. Plus la maison était tranquille, plus mon grand-père était tourmenté, le lit devenant de plus en plus chaud jusqu'à ce qu'enfin il ne put plus rester. « Peut-être la servante l'avait trop chauffé ?» dit le gentilhomme aux questions d'un air curieux. « Je croirais plutôt le contraire, » répliqua l'Irlandais. « Mais, quoi qu'il en soit, il devint trop chaud pour mon grand-père. » « Ma foi, je n'y puis plus tenir, » dit-il. Il sauta donc de son lit et se mit à parcourir la maison. « Pourquoi ?» dit le gentilhomme aux questions. « Parbleu, pour se rafraîchir, sans doute. Ou peut-être pour trouver un lit plus commode. Ou peut-être... Mais qu'importe, il ne me l'a jamais dit. Et à quoi bon perdre le temps en conjecture ?» Or, mon grand-père, ayant passé quelque temps hors de sa chambre, y retournait parfaitement refroidi, quand, au moment d'entrer, il crut y entendre un bruit étrange. Il s'arrêta pour écouter. Il semblait que quelqu'un essayât de chanter en dépit d'un asthme. Il se souvint d'avoir entendu dire que la chambre était ensorcelée. Mais il ne croyait pas au revenant. Il entr'ouvrit donc doucement la porte et jeta un regard dans l'appartement. Ma foi, messieurs, il y vit une fête qui eut étonné Saint-Antoine lui-même. À la lueur du feu, il aperçut un grand Flandrin à figure blême, aux longues robes de flanelle, avec un grand bonnet de coton surnommé d'une mèche, qui, assis près du feu, le soufflait sous le bras en guise de cornemuse, en faisait sortir cette musique asthmatique que mon grand-père venait d'entendre. Il s'accompagnait de mille contorsions bizarres, secouait la tête et agitait en tous sens son grand casque à mèche. Mon grand-père, trouvant la liberté un peu forte, allait lui demander par quelle fantaisie il venait égayer de son instrument avant la chambre d'un étranger, quand un nouveau motif de surprise vint frapper ses yeux. À l'autre bout de la chambre, un fauteuil à grand dossier, à pied tourné, couvert de cuir et garni de petits clous de cuivre, se mit soudain en mouvement, avança d'abord un pied à griffe, puis un bras tortu, et enfin, faisant une révérence, se présenta avec grâce vers une chaise élégante de brocart terni, dont le fond était troué, et ouvrit galamment avec elle par un menuet cette danse d'un nouveau genre. Le musicien jouait de plus en plus haut et agitait sa tête et son bonnet de nuit comme un insensé. La dansomanie sembla s'étendre par degrés à toutes les parties de l'ameublement. Les grands fauteuils à l'antique exécutaient deux à deux des danses villageoises, une escabelle à trois pieds dansait un hornpipe, quoique horriblement gênée par sa jambe surnuméraire, tandis que les pincettes amoureuses, saisissant la pelle à la ceinture, parcouraient la chambre en exécutant une valse allemande. En un mot, tous les meubles se mirent en mouvement, pirouettant, traversant comme autant de diables. Tous, excepté une grande armoire qui, placée dans un coin comme une douairière, faisait révérence sur révérence, parfaitement en mesure, soit que sa corpulence l'empêchât de danser, soit peut-être qu'elle attendit un cavalier. Mon grand-père fut pour cette dernière raison. Ainsi, en vrai Irlandais dévoué au sexe et toujours disposé à s'amuser, il traversa la chambre, dit au musicien de jouer Paddy O'Rafterless, et, cabriolant autour de l'armoire, saisit ses deux poignets pour la conduire. Quand, psst, toute la fête fut à son terme. Les chaises, tables, pelles et pincettes se remettant un instant à leur place comme si de rien n'était. Et le musicien disparaît par la cheminée, laissant là le soufflet dans son désordre primitif. Mon grand-père se trouva assis au milieu de la chambre, l'armoire renversée devant lui, les deux poignets arrachés et dans ses mains. « Eh bien, ce n'était qu'un rêve, » dit le gentilhomme aux questions. « Un rêve, morbleu, » dit l'Irlandais. « Jamais il n'y eut rien de plus vrai. J'aurais voulu voir quelqu'un dire à mon grand-père que c'était un rêve. » Or, messieurs, L'armoire étant encore assez lourde, aussi bien que mon grand-père, surtout par derrière, vous pouvez croire aisément que la chute de deux corps aussi pesants dut faire quelque bruit. Ma foi, la vieille maison en fut ébranlée comme d'un tremblement de terre. Toute la garnison fut alarmée. L'aubergiste, qui couchait en bas, accourut avec une chandelle pour savoir la cause de ce tapage. Mais, malgré son empressement, sa fille arriva avant lui à cette scène de désordre. L'hôte fut suivi de l'hôtesse, qui fut suivie de la grosse fille de comptoir, qui fut suivie de toutes les servantes, fort en gaieté, toutes soutenant ensemble, du mieux possible, les vêtements qui leur étaient tombés sous la main. Mais toutes fort curieuses de voir ce qu'aurait pu faire le diable dans la chambre du hardi dragon. Mon grand-père raconta la scène merveilleuse dont il avait été l'un des acteurs, et les poignées rompues de l'armoire renversée portaient témoignage de la vérité du fait. Il n'y avait pas à discuter sur une telle évidence, surtout avec un gaillard du caractère de mon grand-père, qui paraissait en état de soutenir toutes ses paroles avec l'épée ou le bâton. Ainsi, l'aubergiste se gratta la tête et prit un air niais, sa ressource ordinaire quand il était dans l'embarras. Sa femme se grattait, non, elle ne se grattait pas la tête, mais elle fronçait le sourcil et ne semblait pas fort contente de cette explication. Mais la fille de l'aubergiste la confirma en rappelant que la dernière personne qui avait occupé cette chambre était un fameux jongleur qui était mort de la danse de Saint Vitus et avait sans doute infecté tous les meubles. Cela mit tout le monde d'accord, surtout quand les servantes eurent déclaré qu'elles avaient vu d'étranges choses se passer dans cette chambre. Et comme elles firent cette déclaration sur leur honneur, aucun doute ne put subsister sur ce sujet. « Et votre grand-père se recoucha-t-il dans la même chambre ?» dit le gentilhomme en question. « C'est ce que je ne saurais dire. Il n'a jamais révélé ce secret. À dire vrai, quoiqu'il eût fait beaucoup de campagne, il connaissait assez peu la géographie et était sujet, dans ses voyages, à se trouver embarrassé de dire le matin dans quelle auberge il avait passé la nuit. « Fut-il jamais sujet à marcher pendant son sommeil ?» dit le gentilhomme en question. « Jamais que je sache. » À cet étrange conte irlandais succéda un silence de quelques instants. Alors, le vieux gentilhomme à la tête à revenant fit observer que les histoires jusque-là racontées avaient eu une tendance assez burlesque. « Néanmoins, dit-il, je me souviens d'une aventure dont j'entendis le récit pendant mon séjour à Paris, dont je puis garantir la vérité, et qui est d'une nature bien grave et bien singulière. »